VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 mai 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Congo-Brazzaville, l'appel pour un report des législatives et un dialogue sur le pool.
Côte d'Ivoire, Amnesty International demande aux autorités une enquête indépendante sur les violences de ce mois de mai dans le pays.
Les Chebabs somaliens revendiquent 3 attaques qui ont fait 16 morts hier en Somalie et au Kenya.
En Grande-Bretagne, la police dit avoir procédé tôt ce matin à une explosion contrôlée dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Manchester.
Le terrorisme au centre des discussions entre le président Donald Trump et les autres dirigeants de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Deux organisations congolaises ont appelé mercredi à Brazzaville à la tenue d'un dialogue entre pouvoir, opposition et société civile en vue d'une sortie de crise dans la région du Pool, dans le sud du Congo. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le mouvement citoyen Ras-le-bol ont plaidé pour l'organisation dans l'immédiat d'un dialogue inclusif et sans prétexte lors d'une conférence de presse conjointe. Nous reviendrons sur le rappel à un report des législatives dans la seconde partie de cette édition.
En République centrafricaine, déploiement de drones tactiques français en appui à la mission militaire des Nations Unies, c'est ce qu'ont annoncé hier la MINUSCA et l'état-major des armées françaises. Les drones tactiques et pas de combat doivent servir à des missions de renseignement afin de mieux appréhender la menace que font peser certains groupes armés sur les populations civiles et l'intégrité territoriale, a expliqué le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero.
Côte d'Ivoire, Amnesty International a demandé hier aux autorités d'ouvrir d'urgence une enquête indépendante après les violences du mois de mai, marquées par des mutineries et des manifestations d'anciens rebelles démobilisés qui ont fait 8 morts dans le pays. L'ONG demande que les responsables soient traduits en justice et rappelle aussi l'absence d'enquête indépendante lors des précédentes mutineries de janvier.
Des dizaines de Burkinabés ont été arrêtés en Guinée pour orpaillage clandestin. Ils étaient détenus à Sigiri, dans la principale zone aurifère dans le nord-est du pays. Morgane Guériec.
Ces arrestations surviennent dans le cadre d'un ratissage de l'armée dans les zones aurifères à la demande du ministère des Mines, a déclaré à l'AFP un responsable de ce département qui n'a pas indiqué de date ni le nombre de personnes interpellées. Depuis 5 jours, nous vivons dans l'enfer. Nous sommes pourchassés, arrêtés, humiliés par les forces de sécurité guinéennes, témoigne un orpailleur. Une source policière confirme que beaucoup de ressortissants burkinabés sont détenus en attendant d'être expulsés. Ils ne comprennent pas que cette exploitation artisanale de l'or a été interdite par les autorités guinéennes depuis 3 ans. Outre les Burkinabés, les Maliens, les Ghanéens, des Béninois et des Sénégalais s'adonnent depuis plusieurs années à l'orpaillage sans être inquiétés. Mais cette fois, les autorités guinéennes sont décidées à mettre fin à cette activité.
Les extrémistes Chebab somaliens revendiquent 3 attaques hier en Somalie et au Kenya qui ont fait 16 morts pour la plupart des agents de police et des forces de sécurité. Selon des officiels à Mogadiscio, au moins 8 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dans la soirée par l'explosion d'une voiture piégée près du port de la capitale. Au Kenya, et selon des témoins et les autorités locales, 8 agents des forces de sécurité ont été tués quand leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé dans le nord-est, près de la frontière avec la Somalie.
En Éthiopie, un journaliste a été reconnu coupable d'incitation à la révolte pour avoir communiqué avec un membre d'un groupe d'opposition considéré comme un terroriste par les autorités. Il est en détention depuis 2015, Eric Manirakiza.
Arrêté en 2015, Getachew Shiferaw a été inculpé en vertu d'une loi antiterroriste pour avoir communiqué via Facebook avec un membre de Jimbo 7, Abebe Beleu, qui vit en exil aux États-Unis, a été condamné par contumace en 2012. Le journaliste Getachew Shiferaw risque 10 ans de prison. Le verdict sera annoncé demain vendredi. Cette loi antiterroriste est critiquée par les défenseurs des droits de l'homme et les États-Unis, pourtant alliés de l'Éthiopie. La directrice régionale d'Amnesty International, Muthoni Wanyeki, a dénoncé un nouveau coup porté à la justice. L'arrestation de notre confrère est intervenue lorsque des jeunes Oromo protestaient contre un projet d'expansion de la capitale Addis Abeba. Ces manifestations violemment réprimées avaient fait près de 700 morts. En octobre 2016, le gouvernement a décrété l'état d'urgence et l'a reconduit pour 4 mois en mars 2017.
En Égypte, les autorités ont bloqué hier plusieurs sites Internet, dont ceux de la télévision Al Jazeera et d'une chaîne de l'opposition égyptienne qui émet depuis la Turquie. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la sécurité. L'Égypte accuse depuis longtemps Al Jazeera de soutenir les frères musulmans, mouvement interdit par les autorités qui l'accusent de violences commises après son éviction du pouvoir en 2013. HuffPost Arabie, le site en arabe du média américain Huffington Post, a apparemment été bloqué lui aussi. Il avait publié plusieurs articles critiques envers le gouvernement égyptien.
Changement surprise à la tête du gouvernement en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a remplacé, contre toute attente, son homme de confiance, le premier ministre Abdelmalek Sellal, en poste depuis 2012, Jacques Aristide.
Les Algériens ont été pris de court, d'autant qu'Abdelmalek Sellal avait commencé des consultations pour former un nouveau gouvernement élargi, entamé au lendemain des législatives du 4 mai. Pour les observateurs, il a été renvoyé pour avoir échoué à convaincre la principale coalition islamiste d'entrer dans le nouveau gouvernement. Cet homme de 68 ans a dirigé 5 gouvernements et avait également conduit les campagnes électorales de Bouteflika en 2004 et en 2009. C'est le ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, 71 ans, qui est nommé nouveau Premier ministre. Il s'est retrouvé projeté sous les feux des projecteurs après avoir été décoré de l'Ordre du Mérite National l'année dernière, une distinction qui faisait de lui le nouvel homme de confiance du président algérien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, la police a annoncé qu'elle avait procédé tôt ce matin, dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de Manchester, à une explosion contrôlée lors d'une perquisition dans le sud de la ville. L'attentat, commis à l'issue d'un concert de la star pop américaine Ariana Grande, a fait 22 morts et 64 blessés. À ce stade, 6 hommes et une femme ont été arrêtés en liaison avec l'enquête et sont en garde à vue pour être interrogés, indique la police de Manchester. De plus, le père et le frère de l'auteur de l'attentat suicide, un Britannique d'origine libyenne, ont été arrêtés en Libye.
Arrivée des leaders de l'OTAN à Bruxelles au milieu d'un dispositif de sécurité renforcé pour un sommet dominé aujourd'hui par l'attaque terroriste de cette semaine à Manchester en Angleterre. Il s'agit là de la première rencontre du président Donald Trump avec nombre de dirigeants de l'Alliance Atlantique. Il avait traité d'obsolète cette organisation pour n'avoir pas combattu efficacement le terrorisme qu'il a qualifié hier de problème numéro 1. De l'avis des observateurs, les récentes attaques terroristes en Europe signifient que le président américain pourrait obtenir le soutien dont il a besoin pour renforcer les efforts antiterroristes de l'OTAN. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Bruxelles, non seulement contre M. Trump, mais aussi contre l'OTAN.
Et puis le président américain va consacrer 300 millions de dollars à la lutte contre la famine. La promesse en a été faite hier au pape François, alors que l'administration Trump propose une baisse drastique de l'enveloppe allouée à l'aide internationale. Abdourahman Dia.
Dans un communiqué, le service de presse de la Maison-Blanche indique que le président a renouvelé l'engagement des États-Unis à combattre la famine. Un budget de plus de 300 millions de dollars est dédié à la lutte contre la famine, plus particulièrement au Yémen, au Soudan, en Somalie et au Nigeria, ajoute le communiqué. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 20 millions de personnes dans des zones frappées par la sécheresse souffrent de famine ou risquent d'en souffrir. Les Nations Unies préviennent que ce pourrait être la pire crise depuis 50 ans. La situation est aggravée par les conflits dans ces pays. Rien que pour le Nigeria, le Programme alimentaire mondial dit avoir besoin de 230 millions de dollars pour nourrir les personnes affectées jusqu'en octobre prochain. Les Nations Unies ont annoncé que 1,4 milliard de dollars sont nécessaires pour aider près de 2 millions de réfugiés qui ont fui la guerre et la famine au Soudan du Sud.
Selon l'AFP, citant un responsable américain, un navire militaire américain est passé près d'un îlot revendiqué par Pékin en mer de Chine méridionale. Il s'agit là de la première opération de ce type de l'administration Trump, destinée à démontrer la liberté de navigation dans ces eaux contestées. L'initiative va provoquer la colère de Pékin, dont l'administration Trump essaie pourtant actuellement de se rapprocher sur le dossier nord-coréen. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
Lauréat des trophées African Banker 2017 à Ahmedabad en Inde, le président d'Afreximbank, Benedict Orama, a été nommé banquier de l'année. La banque africaine de l'année est la GT Bank du Nigeria. Le trophée ministre des Finances a été remporté par le Sénégalais Amadou Ba. Ora Bank a remporté le trophée Banque régionale d'Afrique de l'Ouest et Trust Merchant Bank, celui d'Afrique centrale. Pour assurer le bon déroulement de Conakry, capitale mondiale du livre, les autorités guinéennes et leurs partenaires ont mobilisé 3,9 milliards de francs CFA. Le gouvernement reste le pourvoyeur de la moitié de ce budget, tandis que l'autre moitié va être recherchée auprès de partenaires tels que l'UNESCO, l'OIF et divers pays contributeurs, a expliqué le ministre de la Culture, Sia Kabari. L'Union européenne a octroyé un financement de 200 millions de dollars à la Tanzanie pour le développement du secteur de l'énergie, le développement des centrales hydroélectriques dans le sud du pays, des mini-centrales solaires sur les îles du lac Victoria et l'extension du réseau de transmission et de distribution électrique bénéficieront notamment de ce financement.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Finale de la CAN des moins de 17 ans.
Et oui, le Ghana a décroché son billet pour la finale après avoir battu le Niger hier après-midi en demi-finale au pénalty. 6 tirs au but à 5, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Même scénario à suspense dans la deuxième demi-finale entre le Mali et la Guinée. Là encore, 0-0 à la fin du temps réglementaire. 2 tirs au but à 0 pour les Maliens. Le Mali tenant du titre, qui tentera donc de conserver son trophée dimanche à Libreville.
Première qualification africaine à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
La Zambie est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle rejoint le Venezuela et la République de Corée. Menée de 2 buts par l'Iran, la Zambie est parvenue à renverser la vapeur en deuxième mi-temps. Une victoire 4-2. Et puis, de l'autre côté, l'Italie décroche sa première victoire aux dépens des Sud-Africains, 2-0. Deuxième défaite en 2 matchs pour l'Afrique du Sud, après celle face au Japon. Mais l'équipe n'est pas encore éliminée, malgré un bilan de 0 points. On suivra Idrissa tout à l'heure, le match des Sénégalais face aux Américains.
Suite de la Ligue africaine des champions.
Déception à Kinshasa, puisque l'ASV Club a encore été battu. Chute à domicile, 3-1 face au Mamelodi Sundowns. Sidi B avait bien répondu à l'ouverture du score sud-africaine du Libérien Anthony Lafort, mais l'Ivoirien Yannick Zakri puis Villakazi ont permis aux tenants du titre de prendre les 3 points du match. Autre résultat, l'USM Alger battu chez Caps United 2-1 et le Zanaco de Zambie qui domine le Wydad de Casablanca 1-0.
Autre résultat en Coupe de la Confédération.
Oui, Mazembe s'est fait peur mais décroche un match nul dans les ultimes minutes contre le Oroya en Guinée, 1-0. Smoura qui domine l'Ibolo 2-0. Rivers United qui bat le Fus de Rabat 1-0.
Finale de l'Europa League. Manchester United, Ajax d'Amsterdam.
Et Manchester a remporté la Ligue Europa en battant en finale l'Ajax Amsterdam 2-0, notamment grâce à l'ouverture du score de Paul Pogba. Zlatan Ibrahimovic, béquille en l'air sur le bord de la touche devant son public suédois, a pu quand même savourer ce titre. En ajoutant une C3 à sa collection de trophées européens, Manchester United est devenu le 5e club à remporter les 3 coupes européennes après la Juventus Turin, l'Ajax, Chelsea et le Bayern Munich. Manchester n'avait plus soulevé un trophée continental depuis 2008, Idrissa, et son succès en Ligue des Champions contre Chelsea.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Union européenne est sur le point d'imposer de nouvelles sanctions contre 9 autres officiels congolais. Quel éventuel effet dans ce pays où la violence s'accroît, notamment dans le Kasaï, tout comme l'incertitude sur la tenue des élections prévues en décembre? Eddie Sango a joint à New York le directeur du Centre international de coopération, Jason Stearns.
Ça dénote aussi un peu le désespoir quelque part de la communauté internationale. Ils voient que l'accord de Saint-Sylvestre n'a pas été mis en œuvre comme au moins eux, ils le voyaient nécessaire. Ils ont vu que la mobilisation populaire dans les rues de Kinshasa n'a pas marché. Donc le seul levier vraiment qui reste pour mettre pression sur le gouvernement à Kinshasa, c'est les sanctions.
Mais ce n'est pas la première fois que l'Union européenne ou les États-Unis prennent des sanctions. Quel est l'impact que cela pourrait avoir pour un changement dans ces pays?
Pour la plupart, ce sont des sanctions symboliques. Donc, je ne pense pas que la plupart de ces gens-là ont beaucoup d'avoir en Europe ou aux États-Unis. Mais de plus en plus, ça devient inquiétant pour l'élite politique à Kinshasa. Quand même, c'est une élite politique qui dépend pas mal des voyages en Europe. Ils ont des enfants qui vont à l'école en Europe. Ils ont des avoirs. Ils ont des comptes bancaires. C'est seulement quelques personnes jusqu'à maintenant. Mais au niveau symbolique, quand même, ça fait craindre à Kinshasa, je pense.
Pensez-vous que les gens qui sont sur la liste noire en Europe ou aux États-Unis aient réellement des avoirs qui pourraient être gelés aux États-Unis ou en Europe?
Le système monétaire international est assez globalisé. Par exemple, quand le Trésor américain pose des sanctions sur les officiels en RDC, ce n'est pas seulement pour les avoirs qu'ils ont en RDC, mais potentiellement, c'est toute transaction en dollars américains qui pourrait être bloquée. Et comme, par exemple, beaucoup de transferts en RDC se font en dollars américains, donc si quelqu'un envoie de l'argent de Chine en RDC, normalement, ça transite à travers le dollar. Toutes les transactions, tous les transferts bancaires en RDC pour ces individus pourraient être bloqués. Donc, on a entendu des histoires que le général Numbi, qui était sur une autre liste de sanctions des États-Unis, par exemple, avait du mal à retirer de l'argent de son compte bancaire en RDC, ou le général Kanyama, qui était aussi sur une autre liste de sanctions, avait du mal à accéder à son compte bancaire. Donc, il ne faut pas seulement regarder par rapport aux avoirs qu'ils ont à l'étranger, mais ça peut aussi avoir un impact sur leurs avoirs en RDC.
Et juste après la publication des premières listes de gens qui ont été sanctionnés, il y a eu ces révélations de Panama Papers qui démontrent que, en fait, pas ces gens, mais les autorités congolaises ou certaines ont des biens qui échapperaient à ces sanctions.
Il y a un travail à faire effectivement pour les gouvernements européens et aux États-Unis pour savoir où ces gens-là, ils ont leurs avoirs.
C'était Jason Stearns, directeur du Centre international de coopération, joint à New York.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le mouvement citoyen Ras-le-bol ont appelé hier à Brazzaville les autorités à repousser la date des législatives prévue dans moins de 2 mois, et ce afin d'ouvrir un dialogue politique avec tous les acteurs au sujet du Pool, une région déchirée par une crise militaire. De Brazzaville, notre correspondant Nguela Ngusu.
L'OCDH et le mouvement citoyen Ras-le-bol affirment que les élections législatives ne devaient pas avoir lieu dans les conditions de conflit armé dans le Pool. Franck Ndila Malembe, coordonnateur de Ras-le-bol.
Nous, le mouvement Ras-le-bol, on le dit depuis le référendum, on le dit depuis l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, nous disons qu'il est important pour pouvoir évoluer. À un moment, la classe politique, les citoyens, c'est-à-dire la société civile, s'asseyent et règlent ce problème-là pour qu'on règle les problèmes de fond et que de façon cyclique, tous les 5 ans, on ne revienne pas en arrière.
Commentant la situation dans le Pool, Jardin Kinoani de Ras-le-bol estime qu'il faut que les différents protagonistes dialoguent pour épargner les civils de cette crise humanitaire.
C'est quand même aberrant et même déraisonnable que l'on dise qu'il n'y a pas de crise dans le Pool. Comment on explique les différents morts? Comment on explique que les militaires sont en train de mourir dans cette localité alors qu'il n'y a pas de crise? Il y a un problème. Il faudrait bien qu'on dise la vérité aux gens. Et dialoguer, je pense que c'est une chose très importante. Depuis toujours, les autorités congolaises chantent toujours le dialogue. C'est des grands chantres du dialogue. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne veulent pas dialoguer?
Ces organisations de la société civile n'ont pu se réunir le week-end dernier car leur manifestation avait été interdite par la police. Pour le directeur exécutif de l'OCDH, Trésor Ndila Kende, les violations des libertés d'expression ont atteint leur pic au Congo.
Tout est parti de 2014. 2015, il y a eu un accélérateur. Alors 2016-2017, c'est le pic. Les libertés fondamentales au Congo sont en souffrance. Et nous avons demandé aux autorités de reporter ces élections, très rapidement d'engager des discussions avec les autres.
Même les personnalités pressenties candidates aux prochaines législatives ne savent pas quelle est la suite des événements. Didier Clotaire Boutindi, candidat de la majorité à Goma-Tété.
Goma-Tété, c'est pas l'autre côté de Ngangolo, c'est partout. Mais comme il n'y a pas de gens dans ces villages, comment on va aller aux élections où il n'y a pas de gens dans les villages? Nous attendons que ces jeunes qui tiennent les armes doivent arrêter. Parce que pour qu'il y ait l'élection dans le pool. Mais écoutez, mais tel que les gens sont en train de quitter les districts, sont en train de partir ailleurs, mais c'est difficile qu'il y ait l'élection dans le district où je suis candidat. Ben, on regarde.
Anastasie Makosso, responsable de l'ONG Femmes Leaders du Pool, redoute une très faible mobilisation à ces élections.
Ça me paraît difficile. Aller voter, c'est un devoir. Mais on ne le fait que quand on est serein. Aujourd'hui, là, il y a du désordre. Je ne vois pas comment se mobiliser pour aller à une élection.
Le gouvernement, de son côté, continue d'organiser l'opération de révision des listes électorales, tandis que le PCT, le principal parti au pouvoir, désigne demain vendredi ses 151 candidats à ces élections. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Burkina Faso, les activités des groupes d'autodéfense Kogluego sont interdites dans deux provinces du pays à l'issue d'affrontements mortels avec les populations du Sangye et du Boulkiemde. Ce qui n'a fait que relancer la controverse sur les méthodes de ces Kogluego, De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Le mode opératoire violent des Kogluego lors des impositions et perceptions d'amendes ou taxes souvent exorbitantes a fini par mettre le feu aux poudres dans la commune de Tialgo dans une rixe avec la population. Mais plus que cet incident qui va entraîner 5 morts et de nombreux blessés dans les deux camps, c'est la multiplication des comportements jugés dégradants de ce groupe d'autodéfense sur la population qui a suscité leur révolte. Cet affrontement a enfin fait réagir un gouvernement burkinabé resté assez passif jusque-là. Le ministre en charge de la sécurité s'en était fait.
Maintenant qu'ils ont osé poser là qu'il ne fallait pas poser, là nous allons montrer qu'il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau. Il n'y a qu'un seul État qui a des forces régulières qui s'appellent la police et la gendarmerie et qui a une armée. Et nous allons nous appuyer sur ces structures-là pour rétablir l'ordre ici. Et ceux qui ne doivent plus être ici, qui ne sont plus jamais ici.
La tension latente a obligé des personnalités issues des provinces impliquées de Boulkiemde et de Sangye à se mobiliser pour éviter le pire. Thomas Bazier, porte-parole de la délégation de la commune de Koukouldi.
Nous sommes déplacés au quartier général des Kogluego. Ils nous ont écoutés. Donc je les ai interpellés à ce qu'ils déposaient les armes. Après, nous avons fait le déplacement dans la commune de Tounali. Nous avons procédé à rencontrer d'abord toute la population, et notamment les premiers responsables, les doyens. Il ne faudrait pas qu'on ait des partis pris de façon à envenimer la situation. Il faut qu'on crée les conditions pour que les décisions qui ont été prises par le gouvernement, que ce soit le couvre-feu, que ce soit le fait de la cessation des activités dans la zone, que nous pèsions de tout notre poids aussi pour inviter la population au respect de ces décisions.
Se substituant aux forces régulières, les Kogluego imposent et perçoivent donc des taxes sur les activités commerciales. Ils sont aussi accusés de sévices corporels sur les présumés délinquants. S'émeut le docteur Siaka Ouattara, il est sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou.
Si les Kogluego disent qu'ils sont dans une localité, vous faites subir ces affronts à une population. Or, vous êtes des éléments de cette population. Vous n'êtes pas qui des individus, vous avez des familles, vous avez des parents. La vengeance peut s'exporter au-delà de l'individu, même du Kogluego, aussi sa famille, si son village, etc.
Même si le concours de Kogluego a contribué à faire baisser le taux de criminalité dans certaines localités du Burkina, en revanche, leur méthode, à l'opposé de la loi et des droits humains, reste inacceptable, souligne Chrysogone Zougmouré, président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples.
Je pense que le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités. Et nous avons pris sur nous, en tant que structure de défense des droits humains, de faire ce que nous pouvons pour approcher ces groupes d'autodéfense Kogluego, leur parler de ce que c'est que les droits humains, leur parler de ce que c'est que l'état de droit et les amener à minimiser le plus possible ces dérives-là qui font malheureusement parler d'elles en négatif.
Les missions de bons offices se poursuivent pour éviter une quelconque escalade. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi 25 mai 2017, on s'intéresse au bassin du lac Tchad. En 2016, près de 8 millions de personnes y étaient au bord de la famine. En cause, la conjonction d'un conflit armé et d'une crise écologique. Nous nous pencherons aussi sur la situation sécuritaire et sur les efforts fournis par les pays de la région pour limiter les séquelles de la guerre contre Boko Haram. Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Le groupe État islamique a revendiqué son premier attentat suicide en Somalie, une attaque qui, selon une déclaration mercredi de la police, a fait au moins 5 morts dans la ville côtière de Bosaso, mardi soir dans la région semi-autonome du Puntland dans le nord du pays. Les Chebabs, affiliés à Al-Qaïda, avaient jusque-là pignon sur rue en Somalie. Les attaques de Manchester et de Somalie surviennent au moment où le groupe État islamique perd du terrain en Syrie et en Irak. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint Roland Marshall, chercheur et spécialiste des questions de terrorisme.
Il y a aussi une singularité très forte entre ce qu'on voit se mettre en place dans un certain nombre de pays, du Sahel à la Somalie, à la différence de ce qui se passe évidemment en Occident où, disons, la dimension politique est minimale. Il s'agit simplement et purement d'actes de terreur qui visent surtout à fragiliser les sociétés occidentales sans réellement rien construire du politique en Occident.
Mais justement, pourquoi ces deux organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, se livrent à une rivalité de cette nature?
Écoutez, je crois, sur la violence, je crois qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire, ce à quoi on assiste depuis très longtemps au sein de cette mouvance, c'est une globalisation très rapide des répertoires d'action. Donc tout ce qui peut être utilisé par un groupe est potentiellement copié par l'autre. C'est pas que l'un serait moins violent que l'autre. C'est plutôt, il y a une différence doctrinaire et puis il y a un aspect politique éminent. Al-Qaïda a commencé à un but d'abord d'abattre l'ennemi avant de construire l'État. L'État islamique, lui, pense que sur toute parcelle de territoire libéré, il faut construire les prémices de ce que sera un jour l'État islamique au niveau mondial. Donc je crois qu'il y a ça et puis il y a aussi une rivalité proprement doctrinaire qui est le fait qu'il ne pourrait y avoir qu'un seul.
La recrudescence des attentats dans d'autres pays revendiqués par l'État islamique, est-ce que cela peut s'expliquer par le recul de cette organisation en Irak et en Syrie ?
C'est tentant de le dire, mais je pense que c'est assez frappant de voir que jusqu'à un certain moment, il y avait une centralité de l'Irak. C'est vrai qu'à partir du moment où l'organisation de l'État islamique s'est trouvée en difficulté, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu la volonté beaucoup plus forte d'intervenir en Occident. Mais on peut aussi penser que d'un point de vue, encore une fois, idéologique, tôt ou tard, cette confrontation aurait lieu, indépendamment de la situation en Syrie.
Roland Marshall, chercheur et spécialiste des questions de terrorisme.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez rangés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme de la bonne musique, notre sujet de cette semaine, certaines personnes qui exercent les petits métiers mais sont pas sérieux. Par exemple, les mécaniciens. Pourquoi certains mécaniciens sont moins sérieux et mentent aux clients féminins? Qu'en pensez-vous les amis? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 37 31 ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous au 001 202 619 3140. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.